Europe 1. Présent sur Terre depuis au moins 500 000 ans, le grand pingouin est un oiseau qui ne vole pas. Maladroit sur Terre, il passe tout son temps en mer, au gré des courants, et ne gagne la côte que pour s'y reproduire et voir naître son unique oisillon annuel. Avant l'époque moderne, les grands pingouins se comptaient par millions. Aujourd'hui, ils ont totalement disparu de la surface de la Terre. 3 siècles ont suffi pour exterminer cet animal aussi ancien que la domestication du feu par les hommes préhistoriques. C'est l'histoire d'une tragédie zoologique dont l'homme est responsable que je vais vous raconter aujourd'hui. Je suis Virginie Giraud et je vous emmène au cœur de l'histoire, un podcast produit par Europe 1 Studio. La disparition du dernier grand pingouin. Dans les réserves de l'Institut islandais d'histoire naturelle, on trouve une incroyable quantité d'animaux. Un tigre prêt à se jeter sur un kangourou. Un lion aux yeux pleins de fureur. Une quantité incroyable d'insectes ou encore des reptiles figés pour l'éternité. Si ces scènes captées sur le vif restent immobiles, c'est parce que ces animaux sont tous morts et naturalisés, empaillés si vous préférez. À l'écart, tout seul dans une boîte en verre spécialement conçue pour lui, se trouve un grand pingouin. Il est perché sur un rocher artificiel avec un faux œuf entre les pattes. Il mesure au moins 70 cm. Son dos est couvert de plumes brunâtres, à l'origine elles étaient d'un noir luisant. Son ventre est d'un blanc passé, il est doté d'un long bec en lame de couteau. En s'approchant un peu, on distingue une tache blanche sous chaque œil. En bas de la vitrine, sur un rocher, on peut lire cette inscription peinte en islandais. L'oiseau présenté ici a été tué en 1821. Dans ce pays au cœur de l'Atlantique Nord, on mange des grands pingouins depuis des centaines d'années. Enfin, on en mangeait. Deux décennies après le meurtre du spécimen du muséum, le lundi 2 juin 1844 dans l'après-midi, Viljalmur Hákonarson et 14 hommes d'équipage quittent un petit port islandais à bord d'une barque de pêche. Ils mettent le cap sur l'île d'Eldey, un bout de terre volcanique presque inaccessible situé au large de l'Islande. C'est le dernier refuge des grands pingouins. Hákonarson travaille pour un collectionneur européen. Il doit lui rapporter un spécimen de ce drôle d'oiseau, mort ou vif. Deux marins débarquent, ils escaladent tant bien que mal l'abrupte paroi rocheuse, les guillemots s'envolent, mais deux grands pingouins restent là. Ils protègent leur œuf unique. Alors que les marins les étranglent sans scrupule, ils écrasent leur progéniture encore dans leur coquille et ils s'en vont. Depuis ce triste jour, on n'a plus jamais revu de grands pingouins vivant en Islande, ni ailleurs dans le monde. Aujourd'hui, mes chers auditeurs et mes chères auditrices, ce n'est pas vraiment moi qui vous parle, mais un grand pingouin qui vous parle par ma voix. Je suis un grand pingouin. Avant, j'avais des ailes. Des ailes pour voler. Enfin, pas moi, hein. Mais mes très lointains ancêtres. À quoi pourrait-elle me servir aujourd'hui puisque je passe le plus clair de mon temps dans l'eau ? Il existe beaucoup d'oiseaux qui volent et qui nagent très bien, hein, comme le cormoran ou le guillemot par exemple. Mais moi, j'ai pas besoin de m'envoler, car aucun prédateur ne me poursuit quand je suis sur Terre. Les rigoureuses côtes de Terre-Neuve, une île très vaste à l'est du Canada, ne sont pas très fréquentées. Oh, il y a bien quelques phoques, hein, mais ils sont sur la Terre. Et il se déplace encore plus lentement que moi. Pour avoir bien chaud l'hiver, j'ai besoin de graisse. Oh, il faut que je sois gras et lourd hein, pour survivre dans les eaux glacées que j'affectionne tout particulièrement. Je suis donc trop lourd pour bien voler. Mais au cours des millénaires d'évolution, mes ailes se sont transformées en nageoires. Elles me sont très utiles pour nager, et donc pour pêcher du poisson. Elles sont petites, mais parfaitement adaptées à leur usage. En clair, si je ne peux pas voler, je nage beaucoup mieux que mes ancêtres. Allez, ne soyons pas modestes, je suis même un excellent plongeur. Pour que tout soit bien clair pour vous, il faut faire un peu d'ornithologie.
Le manchot, qui lui ne vole pas non plus, appartient à la famille des Sphénidés et il habite l'hémisphère sud. Moi, le grand pingouin et le petit pingouin, mon cousin, nous appartenons à la famille des Alcidés, rien à voir, et nous vivons dans l'hémisphère nord. La confusion entre pingouin et manchot vient du fait que les anglophones désignaient à l'origine le grand pingouin par le terme penguin. Mais après la découverte des manchots de l'hémisphère sud, ils ont décidé d'appeler les manchots penguins et les grands pingouins du nord great hawks. De penguin, je suis donc devenue great hawks. Vous me suivez toujours ? Depuis 500 000 ans, mes semblables mènent une existence paisible. Car nous voyageons et créons des colonies un peu partout. En vérité, nous sommes des millions. Il y a des grands pingouins au Canada et en Islande, mais aussi en Norvège, en Espagne, en Floride et même en France. Oui, en France, près de Marseille, peu cher. Oui d'accord, c'était il y a 18 000 ans. Aucun d'entre nous n'a vu la bonne mer. Mais nous autres grands pingouins, on a de la mémoire. Quelle belle vie là-bas dans les Calanques! Les îles de l'archipel de Rioux sont alors accessibles à pied en passant par des vastes plaines. Le climat et le paysage sont ceux des temps glaciaires, hein. Bouh. À l'époque déjà, il nous faut partager l'espace avec des animaux qui, comme nous, n'ont plus d'ailes, mais pas de nageoires non plus. Juste de très grands membres supérieurs qui ne leur servent ni à voler ni à nager. Ils servent à tenir des bâtons. Ces géants ont aussi de très grands membres inférieurs qui leur permettent de courir vite. Bien plus vite que nous. Ces animaux-là s'appellent des hommes, hein, de bien drôles d'oiseaux. En ce temps-là, ils sont déjà nombreux, mais moins nombreux que nous, beaucoup moins. Nous avons perdu quelques-uns des nôtres là-bas, et pour honorer ce sacrifice, les hommes ont peint des grands pingouins sur les parois de leur abri que vous appelez aujourd'hui la grotte Koskaer. En compagnie de phoques et de méduses, on voit trois de mes semblables représentés sur la paroi. Ce sont deux mâles se disputant pour une femelle. Car parfois, il faut se livrer à des démonstrations de force pour séduire une belle. Ces peintures rupestres gardent donc le souvenir de la très longue coexistence entre les hommes et les pingouins. Des restes fossiles datés de 100 000 ans indiquent même que les hommes de Néandertal mangeaient des pingouins. Ah, oh, quelle horreur! Depuis qu'ils nous ont repérés, notre existence est de moins en moins paisible. Depuis toujours, mes semblables quittent l'océan et s'installent sur les côtes de Terre-Neuve, exactement l'environnement qu'il nous faut pour nidifier. Des îles rocailleuses avec des rives inclinées pour atteindre facilement la mer et pêcher. Et des eaux poissonneuses. On se gave de petits poissons, mais aussi de morues qui viennent frayer dans ces eaux froides. On se regroupe en colonies de plusieurs centaines d'individus. On est bien là. Enfin, on était bien. Car depuis quelque temps, il se passe ici des choses inquiétantes. Très inquiétantes même. Là, juste là, chez nous. C'est-à-dire sur les côtes rocheuses de Terre-Neuve et des îles de la Madeleine au Canada. Depuis quelques décennies, le nombre de géants bipèdes se multiplie tandis que proportionnellement, le nombre de mes semblables diminue. Oh, je ne suis pas le premier à en voir, non, non. Mes parents l'ont vu. Et leurs parents ? Et les parents de leurs parents. En fait, de mémoire de grands pingouins, on a toujours vu des hommes ici à l'embouchure du fleuve Saint-Laurent. Des légendes circulent parmi nous. De très très vieilles légendes. Car comme je vous le disais, le grand pingouin a la mémoire longue. Des hommes sont jadis arrivés par la mer sur d'immenses embarcations. Oh, ils venaient de loin, très loin, de pays où il faisait presque aussi froid qu'ici. Ils faisaient peine à voir. Ils avaient faim et envie de voir ailleurs si l'herbe était plus verte. Mais ici, il n'y a pas beaucoup d'herbe. Alors ces gens, les vikings là, ils sont repartis. Ils ne sont pas restés longtemps, mais assez pour tuer un grand nombre de mes semblables, pour les manger. Oui, ces hommes aussi ont mangé des grands pingouins. C'est affreux. Hein. C'était il y a environ 1000 ans. Et depuis, la situation ne s'est pas améliorée pour nous. Malheureusement, nous ne sommes pas les seuls à aimer la morue. Les humains aussi. Et depuis qu'ils arrivent par bateau entier, ils pêchent eux aussi la morue et ils s'en prennent à nous. Moi ici, je crois que nous sommes condamnés. Les œufs de la dernière saison de ponte ont presque tous été détruits par les hommes ou volés. Les hommes emportent nos œufs, nos petits, pour les manger. Oui, ils avalent nos bébés, nos petits pingouins, qui ne deviendront jamais grands. Rien ne semble rassasier ces monstres. Oh, Je sais, nous aussi, grands pingouins, nous mangeons des animaux. Oui, nous mangeons des poissons qui préféraient passer leur vie à nager dans les eaux tumultueuses de l'océan. Mais nous mangeons pour survivre. Nous ne massacrons pas. Nous ne poussons pas des cris de joie en tuant. Nous n'abandonnons pas de trop nombreux cadavres sur la côte ensanglantée. Nous ne détruisons pas pour le plaisir les œufs de nos proies. On n'est pas des barbares, nous. Depuis plusieurs décennies, les hommes arrivent par bateau et se jettent sur nous. Ils n'ont pas mangé de viande depuis des semaines, depuis qu'ils ont quitté l'Europe. Alors ils courent vers nous et nous frappent avec des bâtons. Nous ne pouvons pas courir. Nous n'avons aucune chance de leur échapper. Nous sommes des proies faciles. Ils tuent sans aucune difficulté tous les grands pingouins qu'ils croisent sur leur route. Ils écrasent les œufs qu'ils ne gobent pas. Et ils rient. Ah, ça oui! Oh, ils rient, parce qu'ils sont fiers de leur massacre. Ah, ça, ça les amuse. Je sais ce qu'ils font de ces cadavres. Je les ai vus faire. Ils arrachent les plumes de mes frères et sœurs et les conservent bien soigneusement. Depuis qu'ils ont exterminé presque tous les canards polaires, les eiders, ils ont besoin d'autres plumes d'oiseaux pour se fabriquer des édredons contre le froid. Alors moi, fier grand pingouin des côtes de Terre-Neuve, moi, je vais finir en édredon. À moins que je ne sois capturée par des collectionneurs. Là-bas, sur les grands continents européens, on se rend bien compte que nous sommes en péril, que bientôt, il n'y aura plus de grands pingouins nulle part. Alors qu'est-ce qu'on fait ? On attend que les grands bipèdes édictent des lois pour nous protéger ? Qu'ils réglementent la pêche ? Ah, vous êtes un peu naïf, si vous attendez ça. Parce que là, ce qu'ils font, c'est capturer des grands pingouins pour les ramener en Europe. Et croyez-moi, on n'arrive pas vivant au bout du voyage. On finit empaillé dans un muséum d'histoire naturelle. Ah oui, alors ça, les noms ronflants, ça leur plaît aux bipèdes. Vous savez ce que c'est, vous, un muséum ? Oui, un muséum. C'est un endroit rempli de choses mortes où il n'y a pas la mer. C'est pour se souvenir des espèces qu'ils ont exterminées. Ah oui, bonjour les enfants, bonjour les enfants. Voilà, je vous présente un dodo. Vous ne savez pas ce que c'est ? C'est normal, moi non plus, il y en a plus de toute façon. Et là, c'est le grand pingouin, les enfants. On a gardé les petits dans les eaux, les petits pingouins. Les gros, on les a mis au muséum. Comme ça, tout le monde peut les voir. Voilà, c'est ça un muséum. Enfin, j'exagère. Il y a aussi de la géologie, de l'entomologie et des dinosaures. Mais ceux-là, ce ne sont pas les grands bipèdes qui les ont exterminés. Tout ça pour vous dire que les derniers grands pingouins du Groenland ont été observés en 1815. Mes parents m'ont dit que certains grands pingouins ont préféré rester en Islande au cours d'une migration. Ils se sont installés sur un petit îlot, presque inaccessible à l'homme, un refuge. Nous, à Terre-Neuve, on peut encore vivre, manger, pondre et protéger nos petits. Ah, nos petits. Ah, qu'est-ce qu'on ferait pas pour eux ? C'est là qu'on est le plus fragile. Quel paradoxe, n'est-ce pas ? Au moment où on perpétue l'espèce, on devient vulnérable. Moi qui vous parle, là, je serre entre mes pattes palmées l'œuf de mon tout petit qui doit éclore dans quelques jours. Ma belle n'en a pondu qu'un, comme d'habitude. Mais il est beau. Il a la forme d'une poire. Regardez cette coquille d'un double en jaunâtre avec quelques lignes fines noires. Chaque parent couve alternativement au pied des rochers face à la mer. C'est le printemps, il fait doux. Les tout premiers petits ne devraient plus tarder. Ce sera encore une joie et un grand émerveillement de les voir naître et de leur apprendre la vie. Mais en auront-ils le temps ? Parce que ce que je vois au loin sur l'horizon, là, ça me dit rien qui vaille. Une voile, deux voiles même qui annoncent encore des hommes affamés armés de bâtons et de haines. Mes semblables aussi les ont aperçus. Mais qu'est-ce que vous voulez ? On va pas fuir et abandonner notre œuf, notre unique œuf. Vous l'avez compris, chers auditeurs, notre grand pingouin ne peut pas raconter la suite de son histoire. Les derniers spécimens de Terre-Neuve ont été observés en 1840. Les hommes ont été impitoyables avec eux. Ils les ont exterminés. Il n'y a pas d'autre mot. Il ne reste aujourd'hui que 80 spécimens environ de grands pingouins dans le monde. Tous naturalisés, bien sûr. Trop lents, trop maladroits, ils n'ont pas pu résister à leur unique prédateur.
Au cœur de l'histoire est un podcast produit par Europe 1 Studio. À la production, Caroline Garnier. À la réalisation, Clément Ibrahim. À la direction artistique, Julien Tarot. À la composition des musiques originales, Julien Tarot et Sébastien Guidis. À la rédaction et la diffusion, Nathan Laporte. À la coordination des partenariats, Marie Corpet. Pour ce récit, j'ai cédé ma plume à Sandrine Brugo. Et moi, la plume et la voix d'Au cœur de l'histoire, je vous retrouve tous les jours sur l'application d'Europe 1 ou sur votre plateforme préférée, et tous les week-ends à 15h sur l'antenne. À très bientôt.